Chères auditrices et auditeurs de Radio Présence, bonjour. Aujourd'hui, dans Musique traditionnelle, j'ai la chance d'accueillir une grande mémoire. J'ai nommé Josette Quintard. Bonjour Josette.
Bonjour Mathilde.
Et puis nous aurons pour cette émission, bien sûr, Armand aux manettes.
Bonjour Mathilde et bonjour Josette.
Et bonjour Armand.
Et nous allons commencer tout de suite par un morceau que nous a envoyé Josette qui s'appelle « Loup bouillé ».
Quand loup bouillé vendait l'aura, quand loup bouillé vendait l'aura, l'aura qui va guillard, l'aura qui va
version chantée en chorale, il me semble. Alors, Josette, rebonjour, merci d'être venue et d'avoir accepté mon invitation à la radio. Alors, si je ne me trompe pas, vous êtes originaire du Cantal et vous vivez maintenant en région parisienne.
Exactement, oui. Alors, originaire du Cantal, par mes parents, en fait. Je suis née à Paris, moi.
Ah, d'accord. Donc, ce sont eux. Ils font partie des gens qui sont montés à la capitale pour pouvoir vivre leur famille.
Voilà, c'est ça. Ils sont repartis en Auvergne à la retraite. Et donc, moi, je suis née à Paris et à l'âge de quelques mois, je ne me souviens pas exactement, il faut que je te redemande à mon père, je suis partie en Auvergne chez une nounou, parce qu'à l'époque, c'était très difficile d'avoir des nounous dans la région parisienne. Et jusqu'à ce que j'aille à l'école, en fait, je suis restée en Auvergne. Je suis revenue à Paris pour entrer à l'école, ainsi que mon frère d'ailleurs, puisqu'on était tous les deux partis en nourrice en Auvergne, dans le Cantal.
Donc à l'âge de 4 ans, ça veut dire que depuis votre naissance jusqu'à l'âge des 4 ans, vous avez vécu...
5 ans même, 5-6 ans. Oui.
Alors en Auvergne ou dans le Cantal?
Bon, le Cantal, c'est l'Auvergne.
C'est vrai, mais c'est plus, c'est plus précis. Il y a Armand qui rigole, du coup.
C'est la Haute-Auvergne, oui. Oui, c'est un petit village qui s'appelait Bromé. Et la nous qui nous gardait, en fait, était gardienne d'un petit château là-bas. Donc on a été jusqu'à l'âge de... de revenir sur Paris, on était dans un petit château.
D'accord, donc vous étiez presque châtelaine dans le Cantal jusqu'à vos 4 ans, on va dire. Et grâce à ça, bon, vous m'avez beaucoup raconté que vous avez gardé énormément de liens avec cette culture de l'Auvergne, du Cantal, dont la langue.
Oui, alors la langue, un peu avec mes parents, surtout mon père, mais pas tant que ça en fait, c'est surtout avec mes grands-parents. Parce que mon père, il nous parlait pas trop patois, il nous parlait plutôt en français et il nous parlait patois quand on faisait une bêtise. Ça, c'était...
Ah bon?
Si tu énervais, ça partait en patois. Mais avec mes grands-parents, bon, surtout mon grand-père, il avait été très peu à l'école, hein, le pauvre. C'était une grande famille de 11 enfants et il allait à l'école un petit peu l'hiver et dès que les beaux jours arrivaient, il fallait qu'il travaille à la ferme. Donc, lui, le français, il parlait français, mais il le maîtrisait moins bien, on va dire, que l'occitan, enfin, que le patois de chez nous.
D'accord, l'auvergnat.
Donc, quand j'étais avec mes grands-parents, ils parlaient tout le temps patois, donc on apprend sans faire d'effort, ça vient naturellement.
Et alors, vos grands-parents, du coup, eux, étaient restés en Auvergne, et donc cette langue, vous l'avez apprise lors de vos vacances? Comment avez-vous fait pour la garder?
C'est même pas ça, parce que mes grands-parents eux-mêmes étaient venus à Paris, déjà. Ils étaient émigrés à Paris. Mon grand-père, les premiers temps qu'il venait à Paris, il était saisonnier. On appelait saisonnier, c'est-à-dire qu'il venait travailler l'hiver à Paris, parce que dans les fermes, il n'y avait pas grand-chose à faire en Auvergne, surtout en Haute-Auvergne. Hein, et du coup, il repartait dans le Cantal, dès les beaux jours, pour travailler à nouveau à la ferme. Ensuite, il a connu ma grand-mère et là, ils sont partis à Paris pour vraiment y rester à longueur d'année, y travailler. Voilà. Mais à cette époque, il y a eu la guerre, etc. Donc, mon père est né à Paris aussi, hein, et comme moi. Mais il est parti tout petit là-bas et il est resté là-bas jusqu'à lui, alors toute sa jeunesse, quoi, finalement. Mais mes grands-parents, pour en revenir à eux, ils s'étaient retirés après en région parisienne, dans le sud de l'Essonne, où j'habite maintenant d'ailleurs. Et c'était un peu là, c'était la campagne quand j'étais enfant. Et du coup, je venais passer mes vacances avec mon frère chez mes grands-parents. Mais ici, malgré qu'on soit dans le sud de l'Essonne, eux, ils me parlaient beaucoup plus le patois que le français.
D'accord, donc en fait, ça faisait partie, il faisait partie de ces communautés. Est-ce qu'il parlait le patois parce qu'il était dans une communauté d'Auvergnat et donc il pouvait échanger? Est-ce que...
Entre eux, ils parlaient surtout entre eux, le patois. Après, avec les gens d'ici, ils ne pouvaient pas parler le patois parce qu'ils ne parlent pas ici. Mais entre eux, ils ne parlaient que ça, quoi. Ils ne parlaient qu'en patois, en fait.
D'accord. Donc la majorité, c'est très intéressant parce que votre famille, elle est plutôt parisienne, mais vous avez gardé énormément de liens avec cette culture très forte chez vous. Et justement, ce chant que vous nous avez ramené, qui est l'oubouillé, représente quelque chose d'important dans votre vie avec cette culture.
Oui, alors quand nous sommes arrivés, mon frère et moi, quand nous sommes revenus à Paris pour aller à l'école, mes parents nous ont repris, donc, et ils voulaient absolument qu'on garde les traditions du pays et surtout le folklore, parce qu'eux-mêmes avaient fait du folklore, étant jeunes. D'accord. Et ils nous ont mis dans un groupe folklorique d'enfants qui s'appelle, parce qu'il existe toujours, Pastres et Pastrettes.
Et c'est où c'est à Paris?
À Paris. Alors, ça avait été fondé dans les années 60, je ne me souviens plus la date exacte, j'aurais dû vérifier ça, par Marie Lagrifoule, qui était une Aveyronnaise. Et c'est pour ça que c'était un groupe, c'était les petits Rouergas de Paris.
D'accord, mais c'était sur Bastille, à Paris, ou Il me semble que le quartier Auvergnat, Aveyronnais, est plutôt par là.
Non, là, elle était... Madame Magrifou, elle était commerçante, elle avait un magasin de fleurs dans le 10e, et elle avait fondé ce groupe avec l'aide de, d'un moniteur de danse qui était lui du Cantal, René Agelbert exactement, il s'appelait, bon, et puis un trésorier pour le groupe qui s'appelait Doumerou. Et il avait fondé ce groupe, mais c'était le groupe des Tirouargas parce qu'elle était, elle était aveyronnaise, elle, mais en fait, ils acceptaient les Cantaliens, les Lozériens, les Corréziens, enfin tous les gens du Massif central. Hein. C'était pas réservé qu'aux Aveyronnais.
D'accord.
Ouais. Et donc, du coup, dans ce groupe, nous y sommes restés, mon frère et moi, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, hein, parce qu'après, on était adolescents. Et après, nous sommes rentrés à l'âge de 15, moi je devais avoir 15 ans, lui 14 ans, nous sommes rentrés au groupe d'adultes qui est la Bouée de Paris.
D'accord.
Qui existe aussi, bien sûr, c'est un des groupes les plus connus, je pense, de Auvergne, un groupe d'Auvergne, quoi. Enfin, à Paris.
D'accord.
Et nous y sommes restés plusieurs années. Jusqu'à l'âge adulte, hein, on avait, je sais pas, 25 ans par là. Et ensuite, on a arrêté complètement, enfin, en tout cas moi. Et maintenant, à la retraite, on y retourne de temps en temps en tant que musicien avec mon mari.
D'accord. Alors justement, j'allais vous demander, dans ce groupe d'enfants et d'adultes, vous ne faisiez que de la danse ou vous aviez aussi une partie chant, musique ?
Alors, dans les deux groupes, il y avait du chant. Alors, dans le groupe d'enfants, c'était des chants plus simples quand même, parce que c'est des enfants qui chantaient. Hein. Mais on a commencé, on avait une petite chorale quand même d'enfants. Et au groupe d'adultes, on avait une chorale que vous avez entendue là, dans le disque qui vient de passer, qui chante Loup Bouillé. Bon, c'est un des chants traditionnels qu'on chantait. C'est un chant liturgique qui a été recueilli par Joseph Canteloube. Et que la Bourrée interprète occasionnellement lors des concerts qu'elle effectue.
Et Loup Bouillé, c'est un chant que j'ai souvent entendu,
même
ici, hein, même dans le Lot, on le reprend.
Oui,
je pense que les auditrices et les auditeurs l'ont reconnu.
J'ai choisi ce titre parce que c'est assez connu. Et puis, c'est un clin d'œil aussi à la chorale du groupe dont je faisais partie.
Alors, je me demandais, parce que vous avez une histoire qui est entre Paris et l'Auvergne. Je dirais que dans le Lot, dans les expériences que j'ai vues, la tradition, enfin, quand on reste par là, on la met un peu de côté, on la regarde un peu avec honte et on y revient beaucoup plus tard. Alors que j'ai l'impression que vous, en étant expatrié, vous y attachiez énormément d'importance. Et comment vous le viviez en tant qu'enfant d'aller dans ce groupe de folklore ? Est-ce que vous étiez content ? Est-ce que c'était un bon moment pour vous ? Est-ce que...
Oui, enfin, au début, on ne savait pas trop. On savait pas trop en quoi ça consistait. Mais après, oui, on a beaucoup aimé, aussi bien mon frère que moi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est parti dans le groupe d'adultes, parce que si ça ne nous avait pas plu, on aurait arrêté plus tôt et on ne serait jamais allé au groupe d'adultes. On a beaucoup aimé, nous, puis c'était intéressant aussi parce que à l'époque, dans le groupe d'adultes, faire des sorties, c'était tous les week-ends hein, qu'on avait des sorties avec le groupe, donc ça nous permettait de sortir. Vous savez, il y a 50 ans, on sortait pas comme maintenant. Hein.
Oui.
Et du coup, nous, ça nous donnait une certaine liberté pour sortir, pour s'amuser.
D'accord.
Et en plus, pour voyager, parce qu'on a fait beaucoup de tournées avec le groupe à l'étranger.
Ah oui, d'accord.
Ça, c'était encore moins fréquent à cette époque. Hein. À cette époque, on ne voyageait pas comme maintenant. On ne prenait pas l'avion tous les jours, mais pas maintenant. Les jeunes voyagent beaucoup, mais il y a 50 ans, on ne voyageait pas comme ça. Donc, c'était une occasion aussi de voir du pays, puis de s'amuser en groupe, quoi, parce qu'on était toute une bande d'amis, en fait.
Oui, d'avoir quelque chose de collectif. Alors, on va passer au morceau suivant, dont on parlera juste après parce que c'est un morceau qui me tient à cœur aussi également.
Présence à Figeac 97.7.
La Cruzada d'Alpuech, qui est une bourrée trois temps. Josette, je vous laisse décrire justement ce morceau, déjà qui le joue et de quel CD ça vient. Et avant que moi, je donne ma petite interprétation de, de cette Cruzada.
Alors, la Cruzada d'Alpuech, bon, déjà, Alpuech, c'est un petit hameau sur l'Aubrac, Et là, c'est Christophe Burg, célèbre cabretteur, à la cabrette, accompagné par Guy Chaudy à l'accordéon. C'est dans leur CD du haut d'York Chaudy. Voilà, j'aime beaucoup l'interprétation de la cabrette par, par Christophe Burg. Je trouve qu'il donne un sentiment à l'instrument. Enfin, chaque fois que je l'écoute, je suis assez émue.
Ah, d'accord. Sachant qu'il faut, il faut quand même dire, je vais vous dénoncer, hein, Josette, hein, aux auditeurs et aux auditrices, c'est que vous-même, vous jouez de la cabrette.
Oui, un petit peu.
Ouh, alors, je vous ai entendu plus qu'un petit peu, quand même. Hein.
Je m'y suis mise très tard. C'est dommage. Mais... c'est-à-dire, c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, j'ai un frère qui est cabretteur aussi. Il a commencé, lui, à 14 ans.
D'accord.
Et à l'époque, mon père m'a dit, tu veux pas toi aussi apprendre à jouer la cabrette? Et ça ne me disait rien, quoi. J'ai pas voulu. Et après, 3-4 ans plus tard, quand j'avais 18-19 ans, j'ai eu des remords. Donc j'ai dit, ah bah tiens papa, finalement, j'aimerais bien que tu m'achètes une cabrette. Bon. Et mon père m'a acheté une cabrette. J'ai essayé et j'ai pas persisté, malheureusement. J'ai essayé un petit peu, mais pas longtemps. Et j'ai mis la cabrette dans le placard jusqu'à la retraite. Et à la retraite, je l'ai ressorti et ça fait maintenant une dizaine d'années, quoi, pas loin d'une dizaine d'années que je m'amuse un petit peu à jouer de la cabrette. Je veux dire, je m'amuse parce que j'ai pas pris de cours, donc je joue comme ça, d'oreille en plus, et j'aime beaucoup cet instrument finalement. Mais j'aurais dû m'y mettre plus tôt. Voilà.
C'est génial cette histoire, parce que finalement, la cabrette que vous avez aujourd'hui, c'est la cabrette de votre père. C'est toujours la même.
Non, c'est pas de mon père, c'est mon père qui me l'a acheté, oui, mais enfin, il jouait pas mon père. Hein.
Oui, enfin, je veux dire, c'est toujours le même instrument, vous l'avez.
Ah, oui.
Il a
oui,
juste.
Oui. Enfin, il avait pris... le sac et le soufflet, oui. Il y a un pied de cabrette, donc, celui qui était avec la cabrette quand mon père me l'a acheté. C'est toujours le même. Après, j'ai d'autres. Pas beaucoup, mais j'ai quelques cabrettes en plus, quelques pieds de cabrettes supplémentaires.
Alors pour les auditrices et les auditeurs, et peut-être même Armand, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un pied de cabrette ?
Du tout, non.
Alors Josette, est-ce que vous pouvez expliquer ?
Alors, c'est la partie, comment dire ?
C'est la flûte de la cabrette.
La partie flûte de la cabrette, si on peut appeler ça, voilà, c'est ça. Le soufflet, c'est faire à envoyer l'air dans la poche de la cabrette, qui est en peau de chèvre, comme son nom l'indique. Hein. Cabre en occitan, c'est la chèvre. Donc,
la petite chèvre.
Recouverte d'un velours. On ne voit pas la peau, le cuir, mais le cuir est recouvert d'un velours. Et la partie flûte, on appelle ça le pied de cabrette. Alors, il y a différentes tailles suivant les tonalités.
Voilà, alors on visse la tonalité qu'on veut en fonction du morceau. Et voilà. La cabrette, je le rappelle, a une particularité, c'est qu'on ne souffle pas dedans. Ce sont deux poches, ce sont deux soufflets et poches qui permettent en fait d'envoyer l'air dans cette flûte. On ne met pas, on n'y met pas de salive dedans, on peut dire.
Exactement, ce sont des anches sèches, d'ailleurs elles craignent l'humidité et... Dès qu'il y a un temps humide, pluvieux, il y a certaines anches de cabrette qui ne supportent pas.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je voudrais animer, motiver ceux qui nous écoutent. C'est que vous avez osé reprendre l'instrument à la retraite. Vous n'êtes pas dit, oh là là, maintenant c'est trop tard. Enfin, vous dites que vous auriez voulu apprendre plus tôt. Mais ça ne vous empêche pas de vous amuser et de participer à des sessions, de jouer depuis 10 ans.
Uniquement ça me permet de participer comme ça de temps en temps. Voilà, je ne fais pas de la cabrette, je ne fais pas de balle, je ne fais pas, voilà, c'est uniquement, bon, je me débrouille un petit peu maintenant, mais ça me fait plaisir, je prends plaisir à jouer, mais ça s'arrête là, quoi, c'est pas...
Et en même temps, vous ne partez pas de rien non plus. Vous ne partez pas de rien non plus, hein, puisque ce qui m'a fascinée quand je vous ai rencontré, c'était cette mémoire que vous avez. Vous connaissez très très bien cette musique, vous en faites partie, vous l'écoutez depuis que vous êtes enfant, vous la dansez. Vous êtes mariée à un accordéoniste, donc vous l'entendez. Du coup, même si vous n'avez pas pris de cours avec un prof, vous partez quand même pas de zéro.
Tout à fait. J'ai des avantages de ce côté-là, oui. Je connais beaucoup de morceaux, j'en ai mémorisé beaucoup, parce que comme je vous avais expliqué, bon déjà, quand j'étais à la maison, mon frère, comme il a commencé à 14 ans, je l'entendais répéter, apprendre des morceaux, etc. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens techniques qu'il y a maintenant. Hein. Il passait les disques vinyles là pour apprendre et tout. Et ensuite, je me suis mariée avec un musicien aussi, donc voilà. Puis mes parents aimaient ça, puisqu'ils avaient fait du folklore eux-mêmes, dans leur jeunesse. Donc, à la maison, il y avait beaucoup aussi de disques de folklore, hein, des 78 tours même.
et donc, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de vous inviter à l'émission, parce que vous avez une grande mémoire de cette musique et une grosse connaissance aussi de ce milieu-là, Et donc, j'encourage les auditrices et les auditeurs à faire de la musique s'ils en ont envie, à danser, à s'y mettre. Il n'y a pas d'âge, finalement, pour s'amuser avec la musique et puis pour commencer.
Non, il n'y a pas d'âge parce que j'ai d'autres... j'ai des amis, parce que du coup, ça fait rencontrer beaucoup de monde, la musique, hein, vous
oui,
savez.
Oui, ça c'est vrai.
Et du coup, je rencontre aussi des gens qui, comme moi, s'ils font guitare, qui réussissent plus ou moins vite, mais qui ne baissent pas les bras et qui continuent, qui font des stages et qui essayent d'avancer musicalement.
Et qui se font plaisir surtout, qui sont contents.
Oui, ben voilà. Et ça permet de rencontrer des gens, de passer des bons moments, et c'est formidable finalement.
C'est exactement ça. Donc pour cette première émission, nous allons nous arrêter là. Le temps est déjà, est déjà arrivé à sa fin. Il y a Armand qui me fait des grands signes en me disant stop, stop.
Oui.
En tout cas, merci beaucoup Josette. On vous réinvite pour une deuxième émission parce que je pense que vous ne nous en avez pas assez dit. On a juste commencé avec le folklore et puis là, je pense que vous avez sélectionné encore quelques musiques de cabrette à nous faire écouter.
Oui, tout à fait. Il y a de la cabrette, il y aura de la, du violon.
Mais pas mal de cabrette quand même, ça, qui est quand même un instrument qui est très spécifique de l'Auvergne. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci à vous. Et à bientôt, au revoir Mathilde et au revoir Armand.